Herodote.net, Richard Schrender.
Bonjour à toutes et tous, aujourd'hui sur Herodote.net, la grippe espagnole. C'était il y a 90 ans, un virus de type A, H1N1, analysé seulement en 2005 comme étant 100 fois plus mortel que n'importe quel autre virus grippal connu. Le 9 juin 2009, l'OMS déclarait le niveau d'alerte pandémique relevé en phase 6 sur une échelle qui compte 6 niveaux, le 7e étant la déclaration de fin de la pandémie. Du coup, selon l'évaluation des spécialistes, les critères qui définissent une pandémie de grippe sont remplis. Le monde est alors, au moment où je vous parle, au mois de juin 2009, en situation de pandémie avérée. Mais il y a 90 ans, en 1918, vous imaginez, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. La grippe espagnole, qui a duré de 1918 à 1919, est qualifiée par beaucoup comme étant la plus grande catastrophe sanitaire de l'humanité. On dénombre de 50 millions à 1 milliard de personnes infectées, c'est-à-dire près de 50% de la population mondiale de l'époque. Là, je parle de personnes infectées. Elle aurait fait plus de 20 à 50 millions de morts, c'est-à-dire 4 fois plus de victimes que la Première Guerre mondiale. On parle d'ailleurs de plus en plus que cette grippe aurait fait plus de morts que la Première et la Seconde Guerre mondiale réunies. Je parle des victimes de guerre, bien entendu. Et les études les plus récentes parlent même de plus de 100 millions de morts. Or, ce n'est ni la seule pandémie, ni la dernière, et ça nous le savons aujourd'hui, et phénomène absolument incroyable, elle est quasiment passée inaperçue à l'époque. Alors contrairement à ce que son nom laisse penser, son origine n'est pas l'Espagne. Les scientifiques ont du mal encore aujourd'hui à s'accorder sur la source exacte. Est-ce que ça vient des États-Unis, ça venait de la Chine? Parce qu'elle est apparue simultanément dans les deux pays. Alors pourquoi est-ce qu'on a donné ce nom de grippe espagnole? D'abord, en 1918, au moment où elle apparaît, la guerre n'est pas encore terminée. Et stratégiquement, je ne sais pas si vous imaginez, mais il est difficile, c'est pas le moment de divulguer à l'ennemi que potentiellement son armée peut être décimée par la maladie. Du coup, dans tous les pays en guerre, chez tous les belligérants, la presse est censurée. Sauf en Espagne, seul pays qui ne soit pas en guerre, d'autant plus que la cour royale est touchée. Du coup, comme ce sont les seuls qui en parlent, eh bien, on l'a appelé grippe espagnole, tout simplement. Alors pourquoi également autant d'approximations? Je parlais de 20 à 50 millions de morts, etc. Parce qu'en effet, aujourd'hui toujours, nous avons un vrai problème pour évaluer l'origine, le nombre des personnes infectées, ainsi que les décès. Pour plein de raisons. La première, à l'époque, tout le monde ne consulte pas, c'est pas comme aujourd'hui. La seconde, le virus n'est pas encore identifié, on ne sait pas ce que c'est. Il y a donc des erreurs de diagnostic, donc dans les textes, on ne sait pas d'où ça vient. La grippe, enfin, troisième raison, la grippe n'est pas une maladie pour laquelle on va faire une déclaration obligatoire au service sanitaire. Enfin, dernière cause, j'en parlais à l'instant, donc c'est la censure. Bien entendu, nous n'avons pas, voire très peu, de sources à ce niveau-là. D'ailleurs, pour ce podcast, trouver des sources dans la presse, trouver des sources un peu partout, a été extrêmement difficile. Du coup, nous n'en sommes réduits qu'à des statistiques assez approximatives. On parle de 200 à 400 000 morts en France, vous voyez la différence. On est à 550 000 morts aux États-Unis, 220 000 en Grande-Bretagne, 6 millions de morts en Chine, 6 millions de morts en Inde, 6 millions en Amérique du Sud, Afrique, Océanie, Russie réunies, et 250 000 morts au Japon. Pour information comme ça en passant, la grippe traditionnelle, dite traditionnelle, la grippe qu'on attrape tous en hiver parce qu'on fait jamais assez attention, fait quand même 2000 morts en France, 2000 morts par an en France et 250 000 morts dans le monde. Alors c'est déjà beaucoup, mais voyez, c'est rien du tout par rapport aux chiffres que je vous donnais, 200 à 400 000 morts en France pour la grippe espagnole entre 1918 et 1919. Alors, je parle de grippe, grippe A, épidémie, pandémie, virus, autant de mots, je crois, sur lesquels il faut quand même revenir pour faire un point, parce que c'est extrêmement important pour comprendre de quoi on parle exactement. La grippe, tout le monde sait ce que c'est. On l'attrape tous, ou on l'a tous vu, ou on l'aura tous attrapé un jour. C'est l'affection bénigne, parfois mortelle, oui, je le dis, 2000 morts par an quand même, en France, et ce sont les personnes faibles, les personnes âgées, ou les enfants en très bas âge, et qui l'attrapent, évidemment, et qui en décèdent. Le nom de grippe vient de l'allemand Grippen, qui veut dire saisir brusquement. Les symptômes, on les connaît, la fièvre, des maux de tête intenses, la fatigue, des douleurs musculaires et articulaires, une toux sèche, des difficultés respiratoires. L'épidémie, par contre, c'est la propagation subite et rapide d'une infection contagieuse, et là j'insiste, dans une région ou au sein d'une collectivité. En rapport avec la pandémie, qui vient du grec pan, qui veut dire tout, un ensemble, etc., et démos, le peuple, c'est le même processus que l'épidémie, c'est-à-dire la propagation subite et rapide, mais là pas dans une région ou dans une collectivité, mais étendue à un continent, voire à une planète. Et on sait que les pandémies sont cycliques, on sait qu'il y en a 2 à 4 par siècle, elles viennent souvent d'Asie, ça nous le savons. On en connaît dès l'Antiquité, on en connaît plus vers l'époque moderne, 1580, 1729, 1780-82, la Chine, qui part de Chine, qui vient en Russie et en Europe, et 1889-90, importante parce que c'est une pandémie mondiale, elle touche tout le monde, 40% quand même de la population affectée, avec une grande mortalité, mais là surtout des personnes âgées et les enfants de la grippe traditionnelle, dirons-nous. C'est une pandémie importante pour le sujet de la grippe espagnole, on va le voir après. Au XXe siècle, on a également des grandes pandémies, on va repartir à l'envers. 1968-69, la dernière, c'est la grande grippe de Hong Kong, qui fait 750 000 à 1 million de morts. C'est une grippe de type A, H3N2, on va revenir à ça après. La grippe asiatique de 1850, 1958-59, qui fait 1 à 1 million et demi de morts, ce qui est quand même considérable. Et 1918-1919, la grippe espagnole, évidemment. Les virus, bon, tout le monde sait en gros ce que sont les virus, ces petites entités biologiques qui nécessitent, et là aussi c'est important, qui nécessitent une cellule hôte et qui va en utiliser les constituants pour se multiplier. C'est pas neutre pour le sujet de la grippe espagnole, vous allez comprendre. Avant de revenir à ces virus, rapidement une explication, parce que je parle de type A, H1N1, etc. Il existe 3 types de grippe. Et je ne vais pas vous embêter longtemps avec ça, il ne s'agit pas de faire un podcast scientifique, mais il s'agit de comprendre, et surtout, on dit que c'est avec l'histoire qu'on comprend le futur. Ce que nous vivons aujourd'hui peut être expliqué un petit peu par l'histoire. Il existe donc 3 types de grippe. La grippe de type A, B et C. Je vais commencer par la C, qui est la grippe que tout le monde connaît, celle que tout le monde attrape quand il ne fait pas attention. C'est l'infection respiratoire bénigne. La grippe de type B, c'est une épidémie peu sévère, et la B et la C, donc, n'affectent uniquement que l'homme. Par contre, la grippe de type A, c'est l'épidémie grave, qui peut affecter les hommes et les animaux, les oiseaux, les chevaux, les porcs, les mammifères. C'est le type de grippe espagnole, de la grippe espagnole, la grippe de type A. Attention, ça va se compliquer. Le virus de la grippe de type A se décompose en sous-types, il y a 2 sous-types, 2 sous-ensembles, H, N. Il y a 16 sous-types H, 9 sous-types N, c'est-à-dire en gros 144 combinaisons possibles de grippe de type A, c'est-à-dire 144 combinaisons possibles de dangerosité, si vous voulez, pour nous. Seulement 8 sur les 144 sont possibles, peuvent passer chez l'homme, mais le virus, vous le savez, peut muter et être transmissible à l'homme de différentes façons. Toutes les grippes de type A sont d'origine aviaire, même la grippe porcine. Elle se diffuse, bon ça on l'a vu avec tous les événements récents, elle se diffuse par les oiseaux sauvages qui les apportent aux oiseaux, aux canards des basses-cours qui sont transmises aux porcs, qui sont ensuite transmises à l'homme, évidemment. Le contact continuel entre les animaux et les hommes dans les basses-cours va favoriser les mutations de virus et permet aux variantes des virus de s'adapter au système immunitaire de l'homme. Et là, je vais vous renvoyer exprès au podcast sur Darwin que nous avons fait, parce que c'est très exactement ce qui s'est passé avec la grippe espagnole. Alors, après cet éclairage technique, et vous avez le droit de revenir en arrière plusieurs fois sur le podcast pour essayer de comprendre, parce que je conçois que ce n'est pas forcément facile pour tous. Mais ça nécessitait quand même malgré tout un petit éclairage, parce qu'on entend tellement de choses qu'une synthèse n'est jamais mauvaise. On va revenir à l'histoire maintenant proprement dite de la grippe espagnole. Parce qu'il y a ce que j'appellerais des faisceaux de faits assez incroyables qui ont fait que cette grippe de type A est devenue extraordinaire. Je vous ai dit que tout à l'heure qu'on est à l'heure actuelle incapable de déterminer si la souche est chinoise ou américaine parce qu'elle apparaît en même temps aux 2 endroits, en tout cas dans les textes. Revenons maintenant à l'époque. Qu'est-ce qui se passe en 1917? Les États-Unis entrent en guerre en avril, Aux côtés des Alliés, et les premières troupes américaines vont débarquer en Europe en juin. Au début, pas très nombreuses, mais elles vont apporter avec elles, et sans le savoir, le virus qui est jusqu'alors inconnu sur le continent européen. Et dès avril 1918, les premières infections vont apparaître. Ça va mettre moins d'un an, vous voyez, entre le moment où les premières troupes débarquent et le moment où les premières infections vont apparaître. Et elles apparaissent au sein des corps expéditionnaires anglais à Bordeaux. C'est la première vague, donc avril 1918, la première vague qui n'est pas encore très meurtrière, mais qui va se répandre comme une traînée de poudre vers l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, puis vers la Russie, l'Afrique du Nord, tout ça en mai, c'est-à-dire en moins d'un mois, puis l'Inde, la Chine, la Nouvelle-Zélande, les Philippines en juin, moins de 3 mois pour faire le tour du monde. Cette propagation est extrêmement rapide, elle est même encore accélérée par les transports, et oui, on est au début du XXe siècle, les transports sont maintenant très au point, par bateau, par chemin de fer, et notamment... Encore une fois, on est en guerre, et donc il y a des déplacements incessants de troupes militaires qui vont donc propager très facilement le virus, il y a des flux incessants de population. Et à ce moment-là, dans cette première vague, décèdent les personnes traditionnellement touchées par la grippe, les personnes fragiles, donc les personnes âgées, et les enfants de moins de 4 ans. On est à peine remis de la première vague que va arriver la seconde. La plus meurtrière, celle qui va passer en 2 mois sur l'Europe, on est fin août 1918, et elle va partir de Brest. Et Brest, ce n'est pas neutre. Encore une fois, c'est l'endroit où débarquent les troupes américaines. Elle part de Brest, elle se répand en Europe, elle va retourner aux États-Unis. Pourquoi ? Elle va tout simplement les blesser au front, on les renvoie chez eux, ce qui est absolument incroyable en période de pandémie. Aujourd'hui, on le sait, à l'époque, on ne peut pas faire autrement. On les renvoie chez eux, ce qui repropage, ce qui ramène le virus qui, entre-temps, a muté, bien entendu. Ça touche même en janvier l'Australie, qui était pourtant protégée jusque-là par la quarantaine. La grande majorité des cas, évidemment, est bénin. On ne meurt pas tout de suite de cette grippe. Mais pour les cas graves, après 2 jours de symptômes bénins, le malade va se plaindre de douleurs dans la poitrine. Et là, pardon si vous êtes en train de manger, mais là, on a des détails, on a des lettres, on a des détails de médecins qui ont écrit. Le patient se plaint de douleurs dans la poitrine, son visage devient violacé, une mousse sanguinolente va s'échapper de ses lèvres, et l'action est foudroyante. Certains ressentent les premiers symptômes le matin et vont décéder dans la journée, ce qui est assez incroyable. Le journal médical, en janvier 1919, écrit « Le patient a succombé si vite qu'il a surpris les pronostics les plus pessimistes. » Il y a une très forte mortalité. Imaginez un peu, aujourd'hui, et à l'époque encore, c'était pareil, la grippe dite traditionnelle, c'est un cas pour 1000. Là, vous avez 3% des personnes infectées qui décèdent. Mais, plus grave encore que ce chiffre, ce ne sont pas les personnes traditionnellement touchées, c'est-à-dire c'est pas plus de personnes âgées, non, au contraire. Ces personnes âgées, on pense qu'elles ont été vaccinées, qu'elles se sont immunisées grâce à la grippe pardon, antérieure de 1889-90. C'est pour ça que je vous en parlais tout à l'heure. Elles auraient, les personnes encore en vie, les survivants auraient été immunisés. Et du coup, cette seconde vague la plus meurtrière va dévaster la tranche d'âge des jeunes de 15 à 35 ans avec un pic pour les personnes de 30 ans. Et c'est extrêmement grave, d'abord en temps normal, c'est grave, puisque c'est la population en pleine fleur de l'âge. Mais en temps de guerre, imaginez un peu quand vous êtes en pleine guerre, que vous êtes au front et que vous avez besoin de faire venir des renforts, et ces renforts sont forcément les jeunes, et que les jeunes à l'arrière décèdent et que vous n'avez plus de renforts, ça pose un problème extrêmement grave dans tous les camps, bien entendu. Vous avez même des victimes célèbres qui vont mourir, ça touche absolument tout le monde. Guillaume Apollinaire, Edmond Rostand, Egon Schiele, Gustav Klimt, pour ne citer que. Les soins, également, sont absolument inefficaces. Ils sont même dérisoires. Pour nous, aujourd'hui, on peut le dire, effectivement, 90 ans après, c'est incroyable d'imaginer que, d'abord, bon, on est en guerre, donc on a que ce qu'on a. C'est à la guerre comme à la guerre, mais on a des médicaments de fortune. On a même des remèdes de grand-mère pour se dire, on va chasser quasiment le démon. On va aller chercher du camphre, de la caféine, de la quinine, de l'eucalyptus, du menthol. On va même jusqu'à vaporiser des antiseptiques dans les foyers. Une chose à savoir, on ne meurt pas de la grippe elle-même, mais plutôt de surinfections bactériennes, des inflammations qui ne sont pas traitées. Si j'osais un petit peu un parallèle avec le sida, c'est un peu la même chose. La grippe espagnole va vous casser vos défenses immunitaires et vous allez mourir, enfin décéder des inflammations qui ne sont du coup pas traitées parce que vous ne pouvez plus vous défendre. Vous allez avoir une, ça va se transformer en bronchite, en otite, en sinusite, ça va s'étendre aux poumons et au cœur et du coup, en raison de l'affaiblissement général, vous n'avez plus aucune défense immunitaire, vous allez en décéder. Et certains vont me dire, mais attendez, en 1888, Fleming a découvert la pénicilline. Il y avait des antibiotiques. Oui, c'est vrai, il y avait des antibiotiques. Mais, une chose à savoir quand même, les premiers tests sur l'homme ne seront effectués qu'en 1940, ce qui est complètement incroyable d'imaginer ça. Sachant quand même que ça n'aurait pas arrêté le virus, ça n'aurait soigné que les complications bactériologiques, c'est-à-dire qu'en fait, la propagation aurait continué d'exister. Aujourd'hui, par exemple, on saurait tout à fait traiter, et on sait tout à fait traiter une grippe de type AH1N1. Et d'ailleurs, nous savons que quand elle va revenir là bientôt, normalement, nous savons faire face à cela. On a évidemment des antiviraux, hein, de type Tamiflu, et les antibiotiques pour traiter les surinfections. Une petite parenthèse quand même en passant. En 2005, une étude américaine a réussi à reconstituer intégralement le virus à partir d'un prélèvement de poumons d'une femme décédée à l'époque dans le Grand Nord, lors de la pandémie donc de 1918, et qui est enterrée dans le permafrost. Les analyses ont révélé, c'est ce que je vous disais en introduction, que le virus de la grippe espagnole, H1N1, était 100 fois plus mortel que n'importe quel autre virus grippal connu. C'est quand même. Imaginez quand même, quand à cette époque-là vous avez la Première Guerre mondiale, plus la grippe espagnole, ça fait quand même beaucoup pour les populations. Alors revenons un petit peu sur l'ambiance de l'époque. Imaginez un peu, octobre-novembre 1918. Dans les premiers temps, la grippe est un problème militaire. Vous avez compris pourquoi, puisqu'on n'en parle pas aux populations. L'information ne sort pas. Les populations ne sont pas au courant. Imaginez un peu ce que ça veut dire. Ça veut dire que vous voyez ce qui se passe, vous voyez des gens, pardon pour l'expression, tomber comme des mouches, mais à cause de quoi on ne sait pas, ce qui fait que les premières rumeurs vont apparaître, les premiers fantasmes vont courir. On parle même que ce sont des Espagnols eux-mêmes qui ont mis une bactérie dans les boîtes de conserve qui apparaissent à l'époque, et pour infecter l'Europe entière. Vous voyez un petit peu le genre de fantasme qui circule à travers toute l'Europe. On a de nombreux morts dans l'armée à cause des conditions de logement. Évidemment, à la guerre comme à la guerre, c'est la promiscuité. Du coup, rien de mieux pour un virus de la grippe que quand tout le monde est réuni en un même endroit, évidemment, ça va se propager de l'un à l'autre. Je vous rappelle qu'un virus a besoin d'un hôte pour se propager, etc. Ça va du coup éclaircir les rangs au front. Donc on va avoir besoin d'aller chercher des renforts. Et pour mobiliser des renforts, il faut des renforts. Sauf que les renforts, je vous le disais tout à l'heure, sont tous en train de décéder les uns après les autres. On a un vrai problème pour les 15-35 ans, parce que les jeunes ne sont plus là, tout simplement. Ça va également désorganiser les transports, parce que il n'y a pas que les militaires qui meurent, mais il y a ceux également qui conduisent les trains, qui conduisent les camions, etc. C'est la grande désorganisation globale. Ça accentue ce que j'ai appelé le faisceau de faits qui va faire boule de neige. Ça commence par l'armée, évidemment, puisqu'on est en guerre. On va continuer avec les défenses sanitaires, les hôpitaux, etc., pour finir par la désorganisation totale des services de l'État. On va y venir. Les militaires qui sont malades sont renvoyés chez eux, donc au mépris de toutes les règles de sécurité, bien sûr, ce qui va propager encore le virus. La plupart des médecins, encore un faisceau de faits extrêmement important. La plupart des médecins sont au front, puisque c'est là que ça se passe. Du coup, ils vont manquer aux populations civiles. Je vous donne un exemple. Au Havre, en 1914, il y avait 90 médecins. En 1917, il n'y a plus que 18 médecins. Un médecin pour 7 500 habitants. Alors imaginez quand vous avez un problème avec la grippe espagnole. Mieux que ça, entre guillemets toujours, le port du masque, qu'on connaît à l'époque, on sait que c'est un système qui permet d'éviter d'attraper la grippe. Eh bien, on ne porte pas le masque par peur, tenez-vous bien, du ridicule. Le journal La Nature, en novembre 1918, écrit: Les hommes accepteront peut-être volontiers ces mesures préventives, mais les dames, pour elles, et eu égard à leur coquetterie, nous nous bornerons à recommander la voilette qui, au lieu de pendre négligemment sur le pourtour du chapeau, sera fermée autour du cou. Vous voyez, on en est là. Les Français sont même priés de rester. Au bout d'un moment, quand même, ça sort. Les Français sont priés de rester chez eux et d'isoler les malades. Et il y a même des témoignages qui porte à sourire, ou pour séparer les malades, on va tendre un drap sur un fil pour en faire une cloison. Ça peut prêter à sourire quand même. Les hôpitaux sont débordés. Vous savez qu'au début, ils sont réquisitionnés, tous les hôpitaux civils sont réquisitionnés par l'armée pour accueillir les blessés de guerre. Mais on est bien obligé de les réquisitionner également pour les nouveaux malades de la grippe espagnole. Et comme du coup, on manque de personnel, on ne peut pas les mettre dans des ailes différentes, ce qui fait qu'on réunit tout le monde, encore une fois au mépris de toutes les règles de sécurité que vous pouvez imaginer. Et donc là, le virus est heureux, il peut se propager à la vitesse grand V, comme vous pouvez le comprendre. Enfin, on manque de matériel, on manque de médicaments, on manque de tout. On est en pleine guerre, on est au début du XXe siècle, on ne sait pas prévenir la maladie et on ne sait encore moins la guérir. Je vous disais tout à l'heure, les services de l'État sont totalement, intégralement désorganisés. Les villes sont paralysées, évidemment, par la maladie, mais également par la peur. Je vous parlais tout à l'heure de ces rumeurs, de ces fantasmes. Vous ne pouvez plus sortir dans la rue, vous ne pouvez plus croiser quelqu'un sans avoir peur, sans le dévisager, sans. Il suffit qu'il soit. On est quasiment dans la peste médiévale, vous voyez, c'est un petit peu ça qu'il faut quand même sentir pour comprendre un peu l'ambiance apocalyptique, quand même, de l'époque. Les lieux publics vont être fermés enfin, quand même, en octobre 1918. Mais les services municipaux des villes sont absolument débordés. Je vais faire un parallèle, quand même, encore une fois. En 2003, souvenez-vous, en France, pardon pour le monde entier qui nous écoute, dans plein de pays francophones, mais en France, en 2003, c'est la grande canicule. Et l'État est totalement désorganisé, on ne sait absolument pas gérer alors qu'il n'y a que. Entre guillemets, c'est énorme, mais il n'y a que 15 000 morts. 15 000 morts, mais on ne sait pas, on n'a pas su prévenir, on n'a pas su quoi faire, et tous les services étaient désorganisés, y compris les pompes funèbres. Et imaginez la grippe espagnole, et imaginez encore plus en temps de guerre. Les services donc sont débordés, les pompes funèbres, les services des eaux, les enlèvements des ordures qui sont également décimés. Que se passe-t-il à ce moment-là? Vous avez en plus des problèmes sanitaires. Je vous disais qu'on ne meurt pas de la grippe. On meurt des complications ou on meurt de ce qui se passe autour. Si en plus vous chopez une maladie d'un problème sanitaire à côté, voyez un petit peu ce que ça donne globalement. Un exemple, à Paris, vous avez jusqu'à 1 000 morts par semaine, alors qu'habituellement vous en avez 300. On manque de cercueils, on manque de corbillards. On dit, il y a un adage qui dit, à chaque chose, malheur est bon. Et oui, quand même, en 1920, grâce à ça, entre guillemets, Clémenceau va créer un ministère de l'hygiène. Une sorte de plus ou moins de ministère de la Santé, si vous voulez. Parce que jusque-là, et encore une fois, pour vous donner une idée de ce qui se passait quand même en 1918, les services d'hygiène étaient répartis dans 8 ministères différents. Donc quand je vous dis que c'est désorganisé, imaginez un peu gérer les problèmes que ça peut être. Le système mis en place par Clémenceau va quand même servir dans d'autres pays, puisqu'il va être adopté au Royaume-Uni, en Inde, en Nouvelle-Zélande et en Afrique du Sud. Sortons un peu de la France, partons de l'autre côté de l'Atlantique, allons aux États-Unis. Là aussi, on est rapidement débordé. Les gens refusent d'aller travailler. Une infirmière sur quatre décède de la grippe espagnole. Et on a même l'exemple, à Seattle, de conducteurs de tramway refusant de prendre des passagers ne portant pas de masque. Enfin, troisième vague, et oui, il y aura trois vagues successives de la grippe espagnole, de février à mai 1919. C'est une vague moins meurtrière que la précédente, et chose étonnante, elle disparaît aussi brusquement qu'elle était arrivée, et globalement, la grippe disparaît quasiment d'un coup, sans qu'aujourd'hui encore nous sachions ni comment ni pourquoi. Alors, il y a plusieurs points qui font que cette grippe espagnole est extra ordinaire et si différente et si exceptionnelle finalement en termes historiques et qui font que c'est une gigantesque catastrophe. Au-delà du fait même du nombre de morts, j'allais dire. D'abord effectivement le grand taux de mortalité qui est énorme. Le second point, parce que ça a touché principalement les populations jeunes, les populations en bonne santé, ce qui est extrêmement nouveau. Et enfin, l'extrême contagiosité de cette grippe. Cependant, et ça aussi, ça rend cet épisode extraordinaire, malgré les rumeurs, malgré les fantasmes, malgré les regards en coin dans les rues, il n'y a pas de traumatisme de la population. Vous imaginez, ça fait plus de morts que la Première Guerre mondiale, mais il n'y a pas de traumatisme. Pourquoi? Parce que la presse a peu relayé l'information, du fait de la censure. Donc du coup, il n'y a pas les moins qu'on peut connaître d'ailleurs aujourd'hui à la moindre apparition de grippe, évidemment. Mais fait plus important encore, qui est difficile à comprendre pour les populations qui sont nées dans les années 70-80 comme nous, qui n'ont pas connu les guerres, etc. Et oui, on est en 1918-1919. Imaginez ce qu'on vient de traverser, 4 années d'une guerre abominable. Verdun, imaginez les tranchées, imaginez le froid, le vent, la pluie, imaginez le gaz moutarde, imaginez manger des rats, etc. Ce qu'on a vécu pendant 4 ans, les horreurs absolues de cette guerre, elle est enfin terminée. La joie de la fin de la guerre va prendre le pas sur la tristesse. On a des témoignages absolument hallucinants qui expliquent, qui racontent que pendant les convois funéraires de décès suite à la grippe espagnole, on entendait plus le carillon de la victoire que le glas de la mort. Ce qui est très étonnant quand même, encore une fois, c'est qu'on en parle peu dans l'histoire de cette grippe espagnole. Encore une fois, on a occulté ce passage parce qu'on est content que cette guerre, cette derdéder, on disait d'ailleurs, c'est la derdéder, elle était tellement abominable qu'on est content que ça se finisse. Vous regardez un dimanche de fiançailles au cinéma, pas une seule fois, on vous parle de la grippe espagnole. Vous lisez des romans historiques, vous lisez des livres d'histoire, on vous parle de la Première Guerre mondiale, mais très peu de la grippe espagnole. C'est assez étonnant. Enfin, encore une fois, à chaque chose, malheur est bon. Enfin, cette pandémie a fait prendre conscience, je dirais, de la nature internationale, cette fois de la menace, d'épidémie, des maladies, et surtout des impératifs de l'hygiène et d'un réseau de surveillance pour y faire face. Dans la charte de la SDN, vous avez ainsi une clause qui marque clairement la volonté de créer un comité d'hygiène internationale qui deviendra finalement, en 1946, l'OMS, hein, l'Organisation mondiale de la santé. Alors, la question qu'on peut se poser en 2009, une telle pandémie est-elle possible aujourd'hui? La réponse est oui, on le sait, puisque nous allons en connaître une, nous en connaissons une en ce moment. Sera-t-elle aussi meurtrière? C'est la question. Parce que, finalement, quand on réfléchit, la propagation va être facilitée et facilitée par l'incroyable facilité des transports aujourd'hui. Ils sont plus rapides, ils sont plus nombreux, ils transportent beaucoup plus de monde et dans le monde entier. La population est plus vieille qu'en 1918-1919. Du coup, elle est fragilisée. A priori, elle risque, cette pandémie de 2009, peut-être de faire un grand nombre de décès. Et nos capacités prédictives sont plutôt limitées face à l'imprédictibilité, pardon pour le mot barbare, de la nature. Mais à côté de ça, je vais dire. La prétention de penser que notre médecine, et je ne suis pas le seul à le dire, que notre médecine est peut-être plus efficace qu'en 1918, on a les antibiotiques et les antiviraux, que nous avons l'OMS quand même quelque part, qui accélère la mobilisation en cas de menace, et on le voit, chaque jour nous avons des rapports et nous avons Internet, nous avons de l'information, contrairement à 1918, on n'est pas en pleine guerre, donc nous n'avons pas de censure, tout le monde peut s'informer, tout le monde doit s'informer. En cas de grippe pandémique aujourd'hui, et pour la première fois dans l'histoire des hommes, le vaccin peut être en mesure de jouer un rôle crucial. Et oui, la pandémie de 57, de 1957-58, on avait connu des difficultés techniques pour la régler. Le vaccin existait, les vaccins existaient, pouvaient exister, mais on avait une surveillance inadéquate, les capacités de production étaient beaucoup moins limitées, beaucoup plus limitées qu'aujourd'hui. Les essais cliniques étaient insuffisants, les problèmes juridiques survenaient chaque jour puisqu'on avait des problèmes de normes de sécurité. Donc le vaccin n'avait vraiment pas joué son rôle et on avait eu beaucoup de cas, beaucoup de mortalité, encore une fois. Aujourd'hui, la plupart de ces obstacles sont heureusement levés. Malgré tout, il y en a d'autres, des obstacles politiques, économiques, qui peuvent tenir sur la durée de conception d'un vaccin, pardon. On sait qu'il faut 3 à 6 mois maximum pour créer un vaccin. Maintenant, aura-t-il muté entre-temps, etc. Il y a une autre problématique qui est l'équité dans les vaccins. Et oui, les pays développés, les pays occidentaux disposent du vaccin, mais les pays en voie de développement n'en disposent pas. Que va-t-il se passer quand ça va nous revenir? Aujourd'hui, en juin, le 18 juin 2009, parce qu'il faut parler, là, c'est quotidien les rapports, le 18 juin 2009, au jour de l'enregistrement de cette émission, la grippe mexicaine, les chiffres sont les suivants. 73 pays ont rapporté 40 000 cas de grippe H1N1, dont 180 morts. Si là, on le voit, la grippe mexicaine est un peu passée, dite mexicaine, hein, est un peu passée au second plan dans les médias aujourd'hui. Mais elle n'est pas éradiquée, il faut le savoir. Les cas d'infection, le nombre de morts continuent d'augmenter. Je vous l'ai dit en tout début, l'OMS est passée en phase 6, c'est-à-dire pandémie mondiale avérée. Après une phase de sommeil, pendant l'été, on sait que le virus de la grippe n'est plus en recrudescence au moment de l'été, la grippe H1N1 pourrait bien ressurgir et devrait ressurgir, encore plus virulente parce que mutée, ayant muté, au moment de l'automne. Alors restez bien informés, il ne s'agit pas du tout de paniquer, il n'y a pas lieu du tout, on a tout ce qu'il faut et on est très très loin et il y a une surveillance absolue, on est très très loin des chiffres d'angoisse absolue. Il existe des sites remarquablement faits par les différents pays avec des consignes à suivre qui sont les plus élémentaires d'ailleurs. Mais on dit souvent que l'histoire se répète, alors est-ce que nous ferons enfin mentir l'adage?